marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Le sentiment anti-européen.
Sergio Mattarella.
Le président de la République tient un rôle de garant. J'ai accepté et partagé toutes les propositions de ministres qui m'ont été faites, sauf celle du ministre de l'Économie. J'ai demandé pour ce ministère un personnage politique qui ne soit pas perçu comme quelqu'un de favorable à une ligne qui provoquerait probablement, voire inévitablement, une sortie de l'Italie de l'euro. L'Italie est un pays fondateur de l'Union européenne et en est l'un des protagonistes. Je n'ai pas le cœur léger en faisant cette déclaration et j'ai fait tout mon possible pour faire naître un gouvernement politique.
Face à la coalition atypique Ligue Mouvement 5 étoiles qui prétendait au gouvernement à Rome, le président italien a donc observé vos deux programmes superposés dont vous avez tenté de ne faire qu'un seul défendaient le peuple contre les importants, l'identité contre l'Union européenne. Vous demandiez une autre Europe, mais vous n'exprimiez encore qu'un sentiment anti-européen, un état affectif entretenu par une colère froide accumulée. Mais, a ajouté le président Mattarella, quand vous me proposez comme ministre des Finances quelqu'un qui risque presque inévitablement de nous bouter hors de la zone euro et donc de précipiter la fin de l'Union, vous entrez explicitement dans un projet anti-européen. Semblant s'en remettre à de nouvelles élections, il demande donc, oserez-vous passer le Rubicon, défendre clairement ce projet en assumant les conséquences ? Les idées mettent beaucoup de temps à naître et beaucoup de temps à mourir. Le sentiment européen, si on commence par lui, s'est clairement inscrit contre l'internationalisme tel que l'entendait le mouvement communiste et contre les nationalismes tels que les avaient entendus les années 30. Il s'est peu à peu constitué en une idée européenne. De cette idée européenne, notre invité Bernard Brunetot a déjà fait naguère l'histoire, séquence par séquence. Il tente la même chose pour le sentiment anti-européen, venu de loin, issu d'anciennes matrices idéologiques bien repérables. Il augmente depuis une trentaine d'années. Mais la température ressentie aujourd'hui correspond-elle pour autant à ce qu'indique le thermomètre ? Et la capitalisation des amertumes, des déceptions, des contre-propositions aboutira-t-elle à un investissement viable ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Eh bien, Bernard Brunetot, bonjour.
Bonjour.
Aux éditions du CNRS, Combattre l'Europe, un livre que vous mûrissiez depuis longtemps, après avoir publié en 2006 un livre sur l'idée européenne. Bon, nos auditeurs sont peut-être lassés qu'on leur fasse le rappel, toujours le même, des débuts de l'idée européenne, enfin de sa constitution en politique, c'était une politique secteur par secteur, avec des acteurs politiques, bah, pas marginaux peut-être, mais enfin assez minoritaires au lendemain de la Deuxième Guerre.
Oui, il y a souvent une idée reçue aujourd'hui, qui peut nourrir souvent l'euroscepticisme, c'est que l'Europe, la construction européenne, est une affaire principalement d'élite, et qui a été imaginée par les élites sous forme d'une coalition transnationale d'élites destinée à promouvoir le capitalisme pour les uns ou une technocratie internationale pour d'autres. En fait, la construction communautaire qui démarre en 1950 avec le plan Schuman-Monnet et qui se caractérise justement par un processus sectoriel, hein, secteur par secteur, donc déborde, si vous voulez, sur tous les plans de l'économie, qui se caractérise aussi par le rôle effectivement des experts dans ces domaines technico-économiques, eh bien, cette construction communautaire n'a pas reçu immédiatement l'aval de la majorité des élites.
Hein. Par exemple, vous citez les hauts fonctionnaires modernisateurs, ceux qui étaient imprégnés de l'esprit de la résistance. Le programme du CNR, dites-vous, pour eux, c'était l'équivalent du Sacre de Reims. Et ben,
Tout à fait. C'est aux fonctionnaires modernisateurs, comme on les appelle, qui traversent les Trente Glorieuses et surtout évidemment la période des années 1950 et encore de la période gaulliste, eh bien, font de l'économie un attribut de souveraineté. C'est-à-dire que l'État est maître, un État dirigiste est maître de la croissance économique, des investissements, et il voit d'un œil mitigé, effectivement, des possibles transferts en matière de souveraineté économique qui pourraient ruiner les grands acquis, si vous voulez, sociaux de la libération, notamment, qui étaient inscrits dans le Conseil national de la résistance.
Inversement, les patrons transnationaux par nature, ils sont europhiles dès le départ.
Alors là aussi, c'est une idée reçue. Tous les patrons ne sont pas transnationaux dans la mesure où beaucoup, eh bien, sont attachés au protectionnisme de l'État et s'effraient d'une mise en concurrence dans le cadre d'un marché commun qui leur apparaît éminemment dangereux. Beaucoup de patrons, d'ailleurs, sont liés plutôt à l'Union française, au monde colonial, et où ils ont des marchés tout à fait protégés et réservés. Et ils vont s'effrayer aussi du marché commun.
Mais alors les grands leaders d'opinion intellectuelle, alors vous parlez de Pierre Mendès-France qui était plus qu'un leader d'opinion intellectuelle, mais aussi de Raymond Aron. Raymond Aron quand même, si un libéral, s'il en est un, eh ben, il trouve qu'il n'y a pas assez d'incarnation dans l'idée européenne.
Oui, il a par moments des phrases assez dures sur le processus européen, notamment après l'échec de la communauté européenne de défense après 1954, où il dit que l'idée européenne est vide. Elle n'a pas la transcendance des idéologies messianiques et elle n'a pas l'immanence des patries charnelles. Donc il y a là une vision critique, sans faire bien sûr de Raymond Aron un europhobe, absolument pas. Mais il y a un scepticisme quand même sur le processus de monnaie.
Alors, puisque vous parlez de la patrie charnelle, on va citer Maurras. La matrice nationaliste, dites-vous, est une des trois matrices du sentiment anti-européen. Pour lui, Maurras, la France est une personne habituée par la monarchie à ses libertés et l'Europe, une idée bien abstraite. Voici un débat genre puppet show entre deux vieux intellectuels qui ont joué un rôle au lendemain de la libération. Pierre Boutan, disciple de Maurras. Mais on va voir que par certains aspects, il est la matrice nationaliste et la matrice mondialiste du sentiment anti-européen. Et Jean-Marie Domnach, qui ne défend l'Europe que finalement modérément, un peu contraint et forcé.
Je crois que les questions qui vont nous tomber dessus dans le monde moderne ne sont absolument pas à la portée de ce petit conglomérat de nations riches et de nations intellectuellement pourries, profondément pourries. Cette communauté existe théoriquement. Toute sa pente, tout ce qui la commande, tout ce qui la gouverne, tout ce qui la fait vivre pour le moment, c'est justement cette bureaucratie et cette conception absolument indifférente au sacré, indifférente à ce qui fait la vie de l'homme. Elle est malthusienne, cette Europe. Elle est le travail et la volonté des riches. Et c'est pour cela que je la refuse.
Oui, mais
la place du pauvre n'y est pas. Et d'ailleurs, les premières victimes de cette Europe risquent d'être...
Ce n'est pas exact, excusez-moi. Enfin, cette Europe, elle a donné un sacré coup de main déjà aux régions pauvres de la communauté. Elle s'efforce d'aider petitement, insuffisamment. Ne jetez pas l'Europe avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Est-ce que oui ou non pour vous, ça représente... Une idée, un idéal ou un destin?
Oui, l'Europe, telle qu'on nous la présente, c'est à la fois trop petit et trop grand. Ça n'est pas le mot. Ça manque à la fois de générosité et de réalisme.
Ce n'est pas un destin. Alors, il est sur une position nationaliste, bien sûr, disciple de Maurras, mais aussi, vous dites, il y a une autre matrice, c'est la matrice mondialiste. Enfin, ceux qui voient le monde à 360 degrés, ceux qui se préoccupent de la justice vis-à-vis des pays en voie de développement, il est un peu aussi sur cette ligne.
Oui, elle apparaît dans cette expression, quand il parle de petits conglomérats de nations riches et pourries, c'était effectivement une accusation portée par un certain nombre de mondialistes libertaires, alors ce n'est pas le cas exactement de Boutan, mais dès les années 50, qui opposent imposer une Europe sans rivage, je reprends ici l'expression de François Perrou, qui a critiqué l'Europe des Sus, et la petite Europe matérialiste, effectivement, que dénonce ici Pierre Bouton. Alors, avec aussi un certain nombre de truismes, la bureaucratie, l'indifférence au sacré, l'Europe malthusienne. Alors, il pointe effectivement le déficit symbolique, sans doute, de la construction européenne, surtout à ses débuts, quand elle ne possédait pas, évidemment, les symboles que nous possédons aujourd'hui.
Mais qu'un nationaliste comme lui, qui avait abandonné l'antisémitisme de Maurras, puisse déborder sur le mondialisme, c'est quand même assez caractéristique du sentiment anti-européen qui cherche à être transpartisan.
Oui, là, je crois que nous avons là une dimension de ce que j'appellerais un tiers-mondisme chrétien ou catholique social, si vous voulez, hein, qui pense que l'Europe doit être généreuse, hein, sous une forme peut-être paternaliste, hein, à l'égard du tiers-monde, et que l'Europe des six apparaît comme un club de nations industrielles et riches. Hein. Il y a cette dimension, alors qu'on n'a pas chez Domenac, c'est intéressant là de voir une défense, en fait, de l'Europe, alors qu'il doit se situer sans doute après 1975, cet extrait, puisqu'il parle que l'Europe fait quelque chose pour les régions pauvres. Ici, c'est le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui l'évoque à ce moment-là et qu'il ne faut effectivement pas oublier après 1975.
Mais bien vu, Bernard Brunto, parce que la deuxième césure sur laquelle je voulais que vous vous penchiez, elle se produit justement au milieu des années 1970. L'Europe s'est élargie. Il va y avoir de premières élections au suffrage universel du Parlement européen. La Grande-Bretagne, le Danemark, l'Irlande ont rejoint les six pays fondateurs. On va entendre des échos de la campagne de 1979. Mais il faut quand même noter que beaucoup de partis, y compris des membres du Parti socialiste, se sont opposés à l'idée d'élire au suffrage universel les parlementaires européens, alors qu'une des critiques qu'on fait toujours à l'Europe dès le départ, c'est de manquer de fonctionnement démocratique.
C'est une chose qui peut effectivement paraître étonnante, mais lorsque la décision d'élire le Parlement européen au suffrage universel qui est prise en 1976 est connue, elle suscite de très fortes oppositions, à droite comme à gauche, dans un pays comme la France. Alors, à gauche, c'est l'idée que nous sommes à la veille des élections législatives de 1978, où la gauche pense l'emporter, et au moins en 1980 aux élections présidentielles, et que des institutions européennes qui seraient peuplées, si vous voulez, de représentants de classes réactionnaires ou capitalistes, eh bien, empêcheraient toute politique de gauche ou exerceraient un pouvoir de contrainte sur une politique de gauche en France. Inversement, à droite, eh bien, on s'insurge contre le pouvoir supranational d'une institution européenne par rapport à la politique étrangère ou à la politique de sécurité.
La décision de l'élection au suffrage universel, c'est 76, 78, les élections législatives ont lieu qui maintiennent au pouvoir à la surprise de pas mal de commentateurs Giscard et Barre. Et puis en 78, Jacques Chirac, l'ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait dissidence, publiait un manifeste anti-européen depuis son lit d'hôpital. C'était l'appel de Cochin, tandis que le Parti communiste déléguait Georges Marchais, son secrétaire général, comme candidat, tête de liste aux élections européennes. Alors on va entendre Marchais d'abord, Chirac ensuite. Marchais, c'est l'expression de la troisième matrice anti-européenne, la matrice internationaliste prolétarienne.
Nous savons bien que M. Barre, comme M. Giscard d'Estaing, n'ont rien à refuser au gouvernement allemand. Mais il faut qu'ils s'en persuadent. Le peuple français, lui, n'acceptera pas cette Europe des super-profits pour les trusts multinationaux, cette Europe de l'affrontement avec les pays en développement sous la bannière des États-Unis et de l'Allemagne fédérale. Certains ont sans doute cru pouvoir nous faire reculer en nous accusant, à partir de cette position-là, de nationalistes. Eh bien, je le dis tranquillement, si aimer son pays, si défendre son pays, si vouloir que la politique de son pays soit élaborée à Paris et nulle part ailleurs, si ça, c'est être un nationaliste, je suis un nationaliste.
Je vous propose maintenant, après cette mise au point, Jacques Chirac qui tenait hier soir une réunion publique à Orléans.
Ce n'est pas avec le franc tel qu'il est que nous serons à la tête de l'Europe. Pour être à la tête de l'Europe, il faut d'abord faire en sorte de redresser la situation intérieure de la France. L'effort principal, si nous voulons être à la tête, ne se situe pas dans l'expression d'une volonté de participer à je ne sais quels organismes supranationaux et bureaucratiques européens. Cet effort se situe dans notre volonté et notre capacité à redresser l'économie de la France. C'est une tâche de politique intérieure.
Bref, Bernard Brunetaut, il ne faut pas être devancé par l'Allemagne. Vous sauriez dire Allemagne fédérale comme Georges Marchais, non? Ça n'avait pas limité, moi non plus d'ailleurs, c'est inimitable. Alors l'Allemagne, ça c'est au centre justement des réflexions des alors, adversaires du projet européen.
Cet extrait de Marchais est intéressant parce que vous en êtes rendu compte, il n'y a pas de référence marxiste hein, au sens critique de l'Europe, à part l'Europe des trusts qui apparaît. L'accent est mis quand même sur la défense des intérêts du peuple français. Et donc il termine avec évidemment cette provocation de vocabulaire, si aimer son pays, etc., etc. Et avec la pointe de germanophobie, puisque c'est une Europe à direction allemande qui s'érige à ce moment-là. Alors ici, Marchais reprend en fait ce qu'a été le discours du Parti communiste lorsqu'il s'est opposé à la communauté européenne de défense entre 1952 et 1954, hein, germanophobie et un certain, si vous voulez, nationalisme. À travers l'exaltation du peuple de France.
C'était un projet qui envisageait d'intégrer des soldats allemands. Dans
exactement,
la défense de l'Europe,
c'était oui. Une façon effectivement de faire renaître l'armée allemande. Alors ici, on est dans un moment différent, mais tout au long des années 70, le Parti communiste a progressivement intégré cette thématique nationale. Alors, il le fait parce que le Parti communiste est porteur aussi d'une culture politique hein, ou qui valorise l'héritage de 1789, qui valorise la tradition jacobine, qui valorise les combats du peuple de France contre autrefois le Saint-Empire ou la Sainte-Alliance au XXe siècle, le Troisième Reich, et puis cette Allemagne dominé par les trusts et en alliance avec les États-Unis. Donc il y a un discours une communiste qui évidemment voit dans l'Europe un ennemi mortel pour évidemment la référence marxiste, pour l'explication marxiste de l'histoire, mais aussi pour ce qu'il interprète comme l'histoire sociopolitique française.
Enfin, il reste que les communistes se présentent aux élections européennes. Vous montrez ça dans votre photo, dans votre livre, vous montrez une photo Combattre l'Europe au CNRS. La carte Vidal Lablache.
J'aime mon pays.
J'aime mon pays. Pays. Et ils deviennent eurodéputés, néanmoins.
Ils deviennent parce que, alors, c'est l'idée que, on rentre dans l'Europe pour la transformer de l'intérieur.
60% de participation en France pour ces premières élections au suffrage universel. Simone Veil et François Mitterrand viennent largement en tête. Georges Marchais à 20%, Jacques Chirac seulement.
Quatrième, 16%.
À 16%. Les années 1980, c'est d'une part un palier, et puis ensuite, à partir du milieu des années 1980, des tentatives de relance politique de l'Europe, et puis on s'oriente vers le grand débat concernant Maastricht 1992, et se pose de plus en plus clairement la question de la participation démocratique à la construction européenne. Jean-Pierre Chevènement, en 1996, revient sur le péché originel qu'aurait commis M. Monnet, l'homme du plan charbon-acier des origines.
J'aime qu'on soulève le couvercle de la marmite. On parle de choses qui sont très loin de désaspiration populaire, et je crois que les peuples aujourd'hui ne s'y retrouvent pas. Je pense que Jean Monnet a joué un rôle très important depuis 50 ans. Je dirais qu'il y a eu deux inspirateurs, au fond, le général de Gaulle qui croyait aux nations, mais qui était prêt à admettre une certaine idée de l'Europe dans le prolongement des nations, mais pas sans elles, à partir d'elles, sur leur base. Et puis il y a eu l'idée de Jean Monnet, qui était un génial organisateur, un homme de l'establishment d'une certaine manière, un homme qui savait coordonner les projets et qui a vu comment on pouvait construire l'Europe de manière indirecte, en se servant d'abord du marché commun, puis ensuite naturellement est venu le projet de l'Europe par la monnaie. Je pense que cette méthode a fait son temps, c'est terminé. Il faut s'adresser aux citoyens, il faut leur demander leur avis.
Mais ces mêmes années sont aussi marquées par une problématique supplémentaire. Centralité de l'Allemagne, déficit démocratique, et vous dites, le thème de l'horreur économique apparaît aussi.
Oui, à partir des années 1990 et de la seconde moitié des années 1990, et l'année 96 pourrait être un tournant dans la mesure où c'est la publication du livre « L'horreur économique » de Viviane Forrester, c'est l'idée que la mondialisation est malheureuse et qu'elle a trois dimensions qui sont profondément perturbatrices. Hein, une dimension bien sûr économique, la mise en concurrence libérale généralisée, une dimension culturelle avec des phénomènes migratoires et le multiculturalisme, et un phénomène politique, c'est l'accentuation du multilatéralisme partout dans le monde. Et pour beaucoup, l'Union européenne incarne ou incarnerait, si vous voulez, ces trois dimensions de la mondialisation, ce qui la place en posture d'accusé très vite dans la seconde moitié des années 90. Et c'est ce qui va apparaître lors des élections européennes de 1999, où une série de mouvements vont incarner ce que l'on va appeler progressivement le souverainisme populiste. Hein, le mot souverainiste, d'ailleurs, intègre le vocabulaire politique français en 1996, justement.
Vous nous amenez, là, Bernard Brunto, à la troisième césure. Alors, je vous propose qu'avant d'entendre des échos de cette élection au suffrage universel du Parlement européen de 1999, on fasse une petite escale en Italie, dans le Piémont, plus précisément, où on pouvait penser que le sentiment européen serait durable. On l'entend Paolo Conte.
Si accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. Il popolo applaude, ringrazia quel poco che sa. I Cina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Zima di Kanda Pai. Cima di canda, ma chi canda paì? Cima di canda paì. Cima di canda, ma chi canda paì?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Un coup d'œil rapide chez nos voisins européens. En Allemagne, très mauvais résultat pour le parti du chancelier Schröder et également pour les Verts. En Grande-Bretagne, revers aussi pour les travaillistes de Tony Blair. En Italie, les partis de la majorité de gauche font moins bien que le total de la droite, alors qu'en Espagne, c'est l'inverse. En Belgique, ces élections européennes étaient couplées avec les élections législatives. Tous les grands partis sont sanctionnés. C'est une défaite cuisante pour le Premier ministre Jean-Luc Dehaene. Au niveau européen, dans le prochain Parlement, le recul des sociaux-démocrates, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, devraient faire perdre leur majorité aux socialistes au profit de l'autre grand parti de centre-droit.
Je ne sais pas s'il faut y voir une raison de se rassurer, mais il n'y a pas qu'en France qu'on a boycotté les urnes. 60% d'abstention au Portugal, 55% en Allemagne, 61% en Suède, 77%, c'est un record en Grande-Bretagne, 70% tout de même aux Pays-Bas.
Alors, les abstentionnistes qui progressent, les souverainistes qui pointent le nez, césure que ces élections européennes de 1999.
Oui, tout à fait. Le taux d'abstention montre que l'Europe n'a, et notamment l'Europe démocratique, n'a pas totalement créé sa légitimité. Sans doute par complexité du système institutionnel qui est mal compris des électeurs, sans doute par le mode d'organisation des élections européennes qui se comprennent comme une addition d'élections nationales, par aussi manque d'incarnation de ces institutions européennes, hein, la différence des élections nationales, par le caractère lointain aussi de ces institutions. Beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer ce que l'on appelle et qui nourrit l'euroscepticisme justement en 1999 de déficit démocratique.
Oui, mais vous dites aussi, Bernard Brunteau, que peu à peu, il y a d'une part l'euroscepticisme, mettons tout ça entre guillemets, qui monte, mais il y a aussi le statoscepticisme, c'est-à-dire que le même scepticisme devant les institutions démocratiques nationales, alors que les anti-européens nous expliquent que c'est dans le cadre national seulement que peut s'exprimer la vie démocratique.
Oui, il y a un rejet du politique, un rejet des partis, hein, un rejet des systèmes, entre guillemets, politiques, qui se développent depuis la fin de la guerre froide. Et on peut dire que le déficit démocratique européen ou l'abstention vis-à-vis de l'Europe ou le faible implication dans la vie politique européenne n'est que dans la continuité, effectivement, de cette abstention ou de ce sentiment antipartisan tel qu'il existe dans les États. Je crois que le fonctionnement même, quand même, de l'Union européenne ajoute à ce sentiment et aussi son déficit symbolique. Hein, une Europe qui paraît à beaucoup, notamment dans les classes populaires, assez artificielle.
Et puis vous dites que l'Europe sociale, c'est un mythe et que donc la question de l'utilité protectrice de l'Union européenne se pose pour les populations à côté de celle du déficit démocratique et à côté de celle de l'identité qui se manifeste de plus en plus, notamment dans l'Europe orientale et centrale.
Tout à fait. Alors, l'Europe sociale, bien sûr, elle est largement mutifiée, mais l'Europe des débuts, quand même, était relativement protectrice. Si l'on prend le traité de Rome qui définissait un tarif extérieur commun, une préférence communautaire, puis ensuite le fonds de développement régional.
Oui, mais nous ne sommes plus à l'Europe des débuts, justement.
Et voilà. Certains vont pointer ce qu'on a appelé le tournant néolibéral des années, de la fin des années 1980, qui intègre un peu plus l'Europe dans l'économie monde, en atténuant ces dimensions protectrices. Thoreau a raison.
Alors l'identité, c'est une question centrale dans tous les pays. En Europe du Nord, qui pensent avoir inventé un modèle social bien avant les autres, en Europe centrale et orientale, évidemment. Mais la dernière question que vous vous posez, est-ce qu'un alter-européisme, la réclamation d'une Europe autre, peut déboucher logiquement, rationnellement, sur un anti-européisme qui deviendrait un projet qui ferait éclater l'Union.
Alors, les succès des euroscepticismes, des mouvements eurosceptiques ou europhobes, hein, ou alter-européistes, on peut les évoquer tous, nous donnent l'impression d'une omniprésence de ces mouvements.
Or, 30 partis peut-être qui vont se présenter aux élections européennes dans un an précisément.
Avec le scénario cauchemar pour certains d'un Parlement qui serait investi par ces formations. Or, celles-ci sont profondément différentes, profondément hétérogènes, quant à leur place dans des cultures politiques nationales, quant à leur matrice idéologique et aussi par rapport à leurs objectifs, sortir de l'euro ou réformer telle ou telle politique.
Merci à vous Bernard Brunteau. Combattre Merci. L'Europe, c'est aux éditions du CNRS. L'émission a été réalisée par Lise Combe avec Théo Gomard à la technique, Frédéric Martin, Franck Olivard, Capucine Paco et Linka Negulesco dans l'équipe de la Marche de l'Histoire.